88 971 1021, si vous avez des choses à nous dire, ça fonctionne par texto. Comment ça se passe sur la route? Vous êtes nos yeux, nos oreilles.
Tu savais que sur Laurentienne Sud, on avait un petit problème depuis la dernière heure. Hauteur de la rue Georges Muir, dans la voie de gauche, c'était complètement bloqué. Il y avait un accident. La SQ est sur place. Mais tu sais, il y a des constructions dans ce coin-là, alors c'est un petit peu plus complexe. Puis ça refoulait jusqu'à Lac-Beauport. Ça commence à avancer. Soyez patients.
All right, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut mon ami!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. C'est-tu populiste d'abaisser les taxes sur l'essence? C'est-tu populiste d'enlever la fameuse taxe carbone?
Bien, c'est une très bonne question. En fait, on pourrait aussi poser la question, c'est-tu populiste d'envoyer des chèques de 600 puis de 400 $ en échange d'un vote? Je veux dire, à la fin de la journée, il y a plein de mesures comme ça qui peuvent être considérées comme populistes. Mais la question qui tue, c'est à savoir... qu'est-ce que va faire François Legault si toutes ces mesures-là, eh bien, il les repousse du revers de la main comme il fait présentement? Parce que, comme on le sait, il y a une partielle qui va bientôt se décider, qui va se faire dans Athabasca. Et disons que tout va se jouer. Là. C'est un comté de la CAQ. C'est un comté où le Parti conservateur d'Éric Duhem espère avoir un premier gain. C'est un comté aussi où est-ce que le Parti québécois espère continuer son momentum puis avoir un autre député. Et au moins pour ces deux partis-là, on peut leur donner. Ils essayent d'amener des idées sur la table. D'une part, il y a Éric Duhem qui lui propose le retrait de la taxe carbone. On a déjà vu tous les sondages, on comprend. Et effectivement, les Québécois en ont assez. Mais d'une part, le Parti québécois a au moins le mérite de proposer des baisses de taxes sur l'essence. Et de voir François Legault réagir comme ça puis de considérer que c'est populiste, moi, j'ai une question à y poser, en fait. D'un, est-ce que les contribuables devraient s'attendre finalement aux baisses d'impôts promises ou finalement c'est rendu populiste, cette promesse-là? Et même, j'allais plus loin, est-ce que c'était populiste quand Doug Ford, pas plus tard que deux semaines en arrière, là, il y a deux semaines, il a présenté son budget en Ontario et il a maintenu la baisse de la taxe sur l'essence de manière permanente en Ontario. C'est populiste. Malheureusement, j'ai l'impression que sa réponse serait quasiment oui à ces questions-là, mais moi, je l'inviterais aussi à regarder un peu les sondages par rapport aux intentions de vote, par rapport à la CAQ versus ce que c'était en 2022. Puis s'il y a un effondrement présentement, c'est peut-être parce que, justement, il n'écoute pas assez ce que les contribuables veulent. Puis c'est pas populiste d'écouter la population une fois de temps en temps et de faire ce que les contribuables demandent.
Oui, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision à long terme là pour ce qui est des communications. Parce que François Legault, si avec la coalition Avenir Québec, on ne sait pas s'il va être là ou si il sera parti, mais la personne qui va prendre la place va devoir enlever cette fameuse taxe carbone-là pour plaire aux Québécois, pour espérer avoir un bon score aux prochaines élections. Fait que, t'sais, tout ce qu'il dit là, ça peut être retenu contre lui dans quelques mois. Là, toujours été ça. Depuis que les gens prennent 4 ans de mandat, c'est 3 années de misère où on fait payer le citoyen. Puis la dernière année, on donne des cadeaux dans l'espoir d'être réélu. Là.
Mais tu le vois pas comme étant, Yann, c'est son arme contre Éric Duhem, parce qu'Éric Duhem, il se fait dire qu'il est populiste depuis toujours, dans toutes ses carrières, que ce soit politique, que ce soit à la radio. Fait que là, pour lui, il s'accroche puis il a le mort aux dents, que ce soit n'importe quel projet qu'il pilote, parce qu'il y a l'étiquette derrière Éric Duhem sur une certaine partie de la population. C'est peut-être une arme qu'il a trouvé facile à utiliser dans ce cas-ci.
Je sais pas. Moi, c'est de voir Paul Saint-Pierre Plamondon qui a de ça quelques mois en avait contre les méchantes pétrolières s'ajuster avec l'avis d'Éric Duhem sur la taxe carbone, le coût de l'essence. Je trouve ça assez particulier de la part de PSPP. Mais encore là, lui, il aura à vivre avec ses choix qui sont tout nouveaux. On s'arrime beaucoup sur Éric Duhem. On veut pas le voir rentrer à l'Assemblée nationale. Mais François Legault va devoir vivre avec ce qu'il est en train de mentionner, là, c'est-à-dire que baisser la taxe sur l'essence, c'est populiste. Là.
Oui, en même temps, moi, j'invite François Legault, en fait, c'est mon petit côté machiavélien rendu là, je veux dire, s'il veut tirer le tapis sous le pied d'Éric Duhem puis éviter qu'il fasse son entrée à l'Assemblée nationale, qu'il fasse comme Mark Carney a fait il n'y a pas si longtemps. Mark Carney a carrément tiré le tapis sous le pied de Pierre Poilievre en s'assurant que la dernière élection ne soit pas une élection sur la taxe carbone. Il s'est assuré de la suspendre pour les consommateurs canadiens dès le 1er avril, puis c'est depuis ce temps-là qu'on en parle beaucoup au Québec. Mais il faut dire que c'était quand même un coup de génie. Je veux dire, les libéraux qui ont mis en place la taxe carbone fédérale sont ceux qui ont fini par l'annuler pour éviter justement de devoir, entre autres, faire une élection là-dessus, puis de se retrouver avec un parti conservateur qui pourrait facilement faire beaucoup de kilométrage là-dessus. Dans le cas d'Éric Duhem, ben, je veux dire, moi, comme n'importe qui, je pense qu'on mérite d'avoir une démocratie qui est représentative, où est-ce que toutes les variantes, toutes les couleurs politiques méritent d'être présentes à l'Assemblée nationale. Mais si François Legault veut être le plus fin dans l'histoire, puis celui qui s'en tire avec dans le fond, d'éviter qu'Éric Duhem fasse son entrée sur cet enjeu-là, ou du moins qu'il continue à faire du millage sur la question de la taxe carbone, mais qu'il élimine lui-même. En plus, c'est pas juste Éric Duhem qui demande ça, ni la Fédération canadienne des contribuables ou l'Institut économique de Montréal. Il y a aussi l'UPA, les producteurs de grains du Québec, on a les camionneurs du Québec, on a plusieurs organisations, donc c'est quand même généralisé. Et donc, de dire que c'est du populisme de demander la fin de cette mesure-là, de cette bourse du carbone, ben c'est quand même assez limité là, comme jugement. Donc, si j'étais François Legault, je reviendrais à ma bonne vieille base, j'arrête pas de le répéter, mais 2018, c'était le François Legault que bien du monde appréciait parce qu'il promettait de réduire la taille de l'État, réduire le nombre de fonctionnaires, réduire le poids de la fiscalité. Il n'y a rien de ça qui est arrivé, mais je l'invite à retourner à ses origines politiques, disons, s'il veut peut-être avoir une chance de se faire réélire l'année prochaine. Pour dire, à la fin de la journée, il y a un peu d'électoralisme là-dedans qui va compter pour comment ces décisions-là vont être prises d'ici temps-là.
Tu voulais ajouter quelque chose, Pascal?
Ben, ça me fait rire parce que c'est vraiment pas nécessairement un plan politique. On peut boucler la boucle sur ce questionnement-là. C'est pas un plan politique. C'est une apparence politique, ce qui se passe au sein de la CAQ. Ça semble évident, puis ce serait hypocrite de pas l'avouer. Rendu là, c'est rendu évident pour des gens qui suivent pas ça à longueur de journée dans chacun des dossiers. À moins que je me trompe, mais pour moi, il n'y a plus vraiment de doute là-dessus, là.
Non, effectivement, je veux dire, on essaie aussi de connaître, comment dire, mon prédécesseur avait déjà écrit ce fameux texte qui s'appelle « À la recherche de la CAQ perdue ». Bon, on essaie de trouver un peu c'est quoi la CAQ présentement, c'est quoi ses orientations politiques. Il y a le paraître, là, il y a le fait de faire des communications sur une base quotidienne puis de continuer à avancer des dossiers, des réformes en santé, réformes en éducation, parler des cellulaires dans les écoles, ce genre de choses-là. Mais à la fin, il y a quand même aussi des enjeux économiques, il y a des enjeux qui touchent dans la vie quotidienne des gens et qui demandent un positionnement qui peut aussi être à la fois un peu idéologique. Je veux dire, comme en politique, c'est normal d'avoir ce genre de positionnement-là qui est un peu biaisé par l'axe qu'on prend, qu'on soit à droite ou à gauche.
Oui, mais c'est un leadership politique aussi. Puis, tu sais, les partis se font élire par leur leadership, par leur vision. Il semble avoir un genre de rumeur flottante par rapport à la CAQ qui était... C'était bien clair. Tu sais, il parle souvent, François Legault, de sa boussole qui a perdu, qui veut la récupérer. Mais leur plan semblait bien clair avant la pandémie. Puis souvent, on va aller excuser ça en disant « Oui, mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer en pandémie. » Comment c'est vrai, ça, je le laisse. Mais là, ça fait plusieurs années que la pandémie est derrière nous. Tous les remous, toutes les difficultés, les défis qu'on a eus par rapport à ça, c'est là où la force d'un gouvernement devrait se démontrer et se faire voir au sein de la population en se disant « S'il arrive quoi que ce soit, parce qu'il arrivera toujours quelque chose en politique, il arrivera toujours quelque chose dans le monde, comment est-ce qu'on se vire de bord? » Puis c'est là où on va voir la force d'un parti, de ne pas rester pogné sur nos convictions qu'on ne peut plus atteindre parce que malheureusement est arrivé un caillou sur notre route, puis ce caillou-là a tout changé le cours des choses. C'est la même chose en vie personnelle de tous et chacun. Là, on a bien beau avoir un plan, si quelque chose arrive, comment est-ce qu'on va démontrer notre force psychologique puis notre force solutionnaire en s'adaptant puis en faisant en sorte qu'on continue d'avancer? Mais je pense que c'est là où on voyait les grandes failles peut-être de ce gouvernement-là.
Absolument. Puis on va se dire, franchement, ce gouvernement-là va devoir travailler fort pour nous faire oublier aussi un paquet de scandales qui sont survenus puis qui leur nuisent énormément. Puis on voit très bien qu'ils gèrent ces scandales-là de la même manière comme on le voit avec sa clique, entre autres, là, ou la SAQ, à quel point finalement c'est du same old, comme on dit par chez nous. Il n'y a rien qui a vraiment changé au cours des dernières années. Donc la promesse d'un Québec nouveau, plus efficace, plus efficient, plus riche, a été un peu bâclée, là. Je veux dire, c'est bien beau nous ramener des indices comme quoi est-ce que la croissance économique ou du moins la productivité des entreprises est un peu meilleure que par rapport au reste du Canada. Mais quand on regarde des rapports qui sortent à répétition, on apprend finalement que non, on traîne de la patte à tous les niveaux malgré tout. Donc oui, je pense que c'est un très bon point. C'est bien beau pointer du doigt la pandémie puis tous les autres types de turbulences qui sont survenus. Donald Trump étant la deuxième très grand cité, notamment dans le budget qui ont livré récemment. C'était pas mal la principale raison du déficit. Ben écoutez, on n'a pas le choix. Donald Trump. Donc, éventuellement, c'est bien beau nommer tous les problèmes du monde, mais il va falloir éventuellement que François Legault prenne un miroir puis regarde dedans comme du monde.
Ah, je regarde présentement tous les postes de télévision là, sont rivés sur l'aéroport d'Ottawa. On attend l'arrivée du roi Charles qui s'amène ici au Canada pour réaffirmer la souveraineté canadienne au gros orange l'autre bord. C'est assez weird là, puisque le roi Charles, tu sais, ça démontre qu'on est en tutelle coloniale depuis des années. C'est drôle quand tu veux affirmer ta souveraineté en disant le Canada n'est pas achetable, mais que tu fais venir un gars d'ailleurs pour dire « Hey, on est là, puis le Canada est souverain. » Ah, je te dis, c'est quand on dit qu'on est colonisé, on l'est, puis pas à peu près. Là.
Ben oui, surtout que ça nous coûte quand même de l'argent à maintenir cette forme de colonialisme-là. Puis, et t'as bien raison, là, c'est quand même assez ironique que pour démontrer notre souveraineté, on fait venir le souverain d'un autre pays pour venir nous présenter et prononcer le discours du trône. D'habitude, c'est un discours qui est présenté par la gouverneure générale. Puis là, cette fois-ci, ben ça sera pas elle. Donc, je me demande pourquoi est-ce qu'on la paye rendue là, parce qu'elle va être à côté à encaisser encore un salaire de 354 000 $ par année. Puis une de ses principales fonctions, c'est évidemment de lire un discours qu'elle ne lira pas cette année. Donc, bref, je suis assez surpris à ce niveau-là.
C'est ça. Parce que dans le 70 millions, là, t'as le gouverneur du Canada qui est payé là-dedans. T'as tous les lieutenants-gouverneurs. Puis t'as tous les anciens gouverneurs et les lieutenants-gouverneurs qui sont sur la paye parce qu'eux autres sont retraités. Là. Ils ont un chèque qui arrive à chaque année.
Oui, eux autres, puis ils ont droit à une belle pension. Là. Peu importe le nombre d'années qu'ils ont passé en tant que gouverneur général, que ce soit à peine 3 ans, comme ça a été le cas pour Julie Payette, ou que ce soit plusieurs années, là, comme Daniel Johnston et autres, ben à la fin, ils ont droit à des belles pensions de plus de 150 000 $ par année dès le moment où ils quittent leur poste. Et en plus, ils ont un compte de dépenses annuel de plus de 200 000 $ Donc, ils peuvent soumettre un paquet de dépenses pour X, Y, Z, surtout pour les accommodations, le déplacement et autres. Et ça, c'est refilé aux contribuables. Donc, c'est une facture assez salée. On avait déjà fait le calcul auparavant. Juste les anciens gouverneurs généraux, donc tous ceux qui ont quitté, ainsi que Mary Simon, lorsqu'elle quittera, on sait pas exactement à quel moment ça va arriver, mais mettons qu'elle quitte demain, ben elle et tous les autres anciens gouverneurs vont avoir droit à pas loin de 18 millions de dollars en compensation, que ce soit via leur pension, via leur compte de dépenses post office, donc après avoir pris on s'entend, ils continuent à percevoir ces salaires-là, ces montants-là en étant plus gouverneurs généraux, et c'est sans oublier bien sûr tous les privilèges auxquels ils ont droit en tant que gouverneur général quand ils siègent, quand ils sont à Rideau Hall. Et ça, ben comme tu l'as mentionné, ça inclut aussi des lieutenants-gouverneurs. On passe généralement ça sous silence, mais juste au Québec, le lieutenant-gouverneur, son bureau ainsi que son équipe coûte pas loin de 700 000 $ aux contribuables québécois. Donc, veut pas, c'est quand même des centaines de milliers de dollars qu'on lance dans une patente où est-ce qu'on a de plus en plus de difficulté à la justifier. Puis par patente, j'entends ici la monarchie. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on aille des changements constitutionnels demain matin, mais en même temps, c'est un débat qu'il y a de plus en plus de personnes au Canada sans vouloir avoir. Il voit de moins en moins de légitimité dans cette institution-là. Et à la fin, ben il faut rappeler, ça coûte cher. C'est 71 millions de dollars cette année que ça nous coûte la monarchie canadienne. C'est 10% de plus que ce que ça nous coûtait il y a environ 5 ans. Donc, on paye de plus en plus pour une institution qui nous représente de moins en moins.
Ouais, puis parlons de payer. Tous les élus fédéraux qui ont perdu leur job aux dernières élections fédérales, il y en a plusieurs qui sont sur la pension, là, qui ont accès à leur pension. Ça nous coûte combien là pour tous ceux qui sont partis?
Oui, ben on a fait le calcul rapide de notre côté pour être en mesure d'avoir une idée de combien ça va coûter, parce qu'il y en a 110 qui ont perdu leur poste, qui ont perdu leur job en tant que député ou qui ont décidé de pas se représenter en fait à l'élection de 2025. Et sur ces 110-là, en fait, on a calculé s'ils ont droit à leur pension, s'ils ont droit à leur allocation de transition et s'ils ont droit aux deux, parce que c'est possible, et combien ça coûterait aux contribuables s'ils prennent leur pension à partir de l'âge de 65 ans jusqu'à l'âge de 90 ans. Et au total, on arrive à un montant de plus de 187 millions de dollars que ça va coûter en pension pour les élus à la Chambre des communes ainsi que pour les allocations de transition. Sur les 110, il y en a 63 là-dedans qui ont droit essentiellement à la pension et à l'allocation de transition. Il y en a une quarantaine là-dedans que c'est juste l'allocation. Donc, pour faire la différence, pour avoir droit à la pension, il faut être au moins 6 ans à la Chambre des communes. Donc, c'est pas beaucoup, là. Vous cotisez jusqu'à la hauteur de 3% de votre salaire pendant 6 ans. Et là, par la suite, on vous donne une pension à partir passé de l'âge de 65 ans que vous obtenez à vie, bien sûr, et vous pouvez la réclamer à l'âge de 55 ans, moins 10% parce que vous êtes moins éligible, donc vous avez le droit à la prendre plus tôt. Et si jamais, bon, vous n'avez pas droit à la pension, vous avez la question de transition, c'est si vous perdez votre comté, vous avez le droit à une compensation, c'est pas loin de 50% de votre salaire. Donc, peu importe le député qui a perdu, il a le droit à quand même 104 000 $ en compensation cette année. Donc, pas loin de 6 mois de rémunération pour lui permettre de se replacer sur le marché du travail, il faut dire. Donc, c'est quand même assez généreux. Et sur le tas de tout ça, on a quand même rappelé que Justin Trudeau, lui, de son côté, il a le droit à deux pensions. Il y a une pension de premier ministre et une pension de député. Et au total, juste à lui seul, ces deux pensions cumulées jusqu'à l'âge de 90 ans, c'est 8,4 millions de $ que ça va coûter aux contribuables. Donc, disons qu'on ne pleurera pas trop sur le sort des élus déchus qui ont perdu leurs élections ou qui ont décidé de ne pas se représenter parce qu'au final, ils sentaient quand même assez bien quand on regarde les avantages financiers de tout ça.
Good job, Nicolas Gagnon. On vous salue, la Fédération canadienne des contribuables. Puis en même temps, pour tous ceux qui veulent vous encourager, on va directement sur contribuable.ca, contribuable avec un S.ca. Je te souhaite une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Vous autres aussi, à très bientôt.
Salut.
Bye-bye. Je regardais la citation de Yves-François Blanchet. C'est bien rare que je suis d'accord avec lui, tu sais, concernant la visite, la visite du roi Charles ici pour montrer au gros orange qu'on est souverain au Canada. Il dit, c'est comme si on disait au président américain, écoute, Donald, on peut pas devenir tes sujets parce qu'on est déjà ceux de ce gars-là. C'est tellement
c'est quand même
vrai.
Bien dit, là.
Ah, je comprends mal la décision de Mark Carney dans ce dossier-là.
Ben, tu pourras en parler avec Valérie Bourdois dans quelques instants.
Exact, l'excellente analyste politique qui sera avec nous. On revient, les amis.